de Modular Europe. Donc juste un petit mot pour vous dire que ce soir, donc, Modular Europe organise un petit apéro communautaire.
Ok, bonjour à tous, je m'appelle Jean-Luc Hervès, je fais partie d'une entité chez IBM qui s'appelait l'Accessibility Center, ou le Centre d'accessibilité européen, qui a été renommé en début d'année sur Human-Centric Solutions, parce que tout le monde sait que l'accessibilité, ça ne fait pas vendre, alors que se tourner vers l'humain, ça a plus de chances que de marcher. Et au moins, on ne vous rabat pas toujours les oreilles avec le handicap, le handicap, le handicap. C'est bêtement l'accessibilité, c'est pour tous, donc c'est centré sur l'humain. Revenons au sujet de la présentation. Accessibilité des vidéos sur le web, pourquoi si peu? Bon, on a tendance à se le demander. C'est pas qu'il n'y en a pas, hein. C'est pas tous les sites de partage de vidéos, même les sites gouvernementaux, hein, l'éducation nationale ou présidence de la République. C'est aussi le cas, là on a le site de Danone, des compagnies privées. Chez IBM, on en mange la vidéo sur l'intranet, et j'en passe, elle est meilleure. Donc on peut quand même se demander... pourquoi il y a si peu de vidéos accessibles? Moi, je ne sais pas, quand je regarde des vidéos sur l'intranet, j'aime bien qu'elles soient sous-titrées parce que je n'ai pas envie de polluer de façon sonore mes petits collègues qui sont dans la même pièce que moi. Le fait d'avoir des sous-titres, c'est plutôt sympa. Le fait de pouvoir avoir un transcript aussi, c'est pas plus mal. Si je suis un peu geek et que j'ai mon lecteur d'MP3, me le faire un petit podcast, ça ne mange pas de pain non plus. Donc c'est pas uniquement pour le handicap, hein. C'est bien pour tout le monde. Bon, il y a des chiffres qui vous pouvez trouver comme moi, hein. Les internautes qui regardent des vidéos en ligne, on est de plus en plus. Et quand on regarde ce qu'on fait effectivement, quand on voit des vidéos, on aperçoit qu'il y a quand même un intérêt non neutre d'un certain nombre d'annonceurs, de producteurs de contenu, de gens qui font du hosting de vidéos. C'est quand même un domaine où il y a un petit peu de business à faire. Bon, alors une vidéo accessible sur le web, c'est-à-dire quoi? On a parlé tout à l'heure de standards, on va y revenir tout de suite après. Ça commence peut-être avant de parler même du contenu, c'est peut-être déjà le lecteur multimédia qui a tout à fait intérêt à être accessible si j'ai envie de l'utiliser simplement avec les touches de contrôle sans vouloir utiliser la souris. Des alternatives adaptées, on parlait de texte puisque c'est le format quand même le plus accessible, d'audio, pourquoi pas de description audio, pourquoi pas de langage des signes. Donc on va voir un petit peu tout ce que ça représente. Si on se base sur les règles WAI, dont on a déjà beaucoup parlé, il y a quand même au minimum deux règles qui sont deux règles de priorité 1 qui concernent de près ou de loin la vidéo. Donc c'est une description audio et des équivalents synchronisés. C'est pas surprenant. Si on va vers WCAG 2, alors là, on a encore plus de points qui parlent de l'accessibilité de la vidéo. Et là, on commence à parler, toujours dans le niveau A dont on parlait tout à l'heure, des sous-titres, pardon, de la description d'audio ou au moins une alternative plein texte. Ça, on reste déjà que dans le niveau A. Le sous-titrage ou l'interprétation en langue des signes n'intervenant que dans le niveau triple A de WCAG 2. Qu'en est-il du RGA? On a deux points de contrôle et de niveau A. Et comme par hasard, désolé, mais c'est tout des recommandés et pas obligatoires. S'ils sont devenus obligatoires, j'ai dû louper le dernier... Sûr? Ouais, ça j'ai. OK. Alors, on va commencer par les sous-titres, puis ça va être surtout le sujet de l'introduction, puis après voir ce que ça donne une fois qu'on a intégré ça dans les pages. Enfin, je ne sais pas si quelques de vous sont déjà lancés dans le sous-titrage. Je sais qu'Aurélien, bien sûr, oui, puisqu'il a déjà animé un atelier dans le groupe de travail AccessiWeb sur le sujet. Et curieusement, c'était il y a 2 ans, et il y a 2 ans, si je me rappelle bien, c'était en juin ou en décembre 2005, même un truc comme ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, on ne parlait pas de Flash. Mais ça vient, ça vient. Alors donc, comment les produire efficacement, c'est-à-dire qu'on puisse en faire à la chaîne, hein, quand on a du contenu vidéo à publier, qu'on puisse le faire de façon efficace. Économique, c'est possible. Si certains de vous sont déjà essayés au sous-titrage, en gros, c'est si j'ai un temps T de vidéo. En gros, si je fais ça avec des outils, on va dire, classiques, c'est x5 ou x6, x10, des fois, pour des vidéos un peu compliquées. Donc, économiquement, ça représente un coût non négligeable. Vite, parce que le client, qu'il soit interne ou externe, bah, tant qu'à faire, dès qu'on lui donne la vidéo, le lendemain, il la voudra sous-titrer. Et puis, dans les formats qui soient corrects, parce que des formats de sous-titres, on en a à l'appel. Et on va voir que bah, les bons formats, il y a des formats qui reposent sur des standards. On va parler de Smile, de choses comme ça. Et puis on va parler des choses un peu moins standards comme Flash, mais qui peut utiliser du Smile. Enfin bon, je ne vais pas tout dévoiler tout de suite. Voilà, il y a une foule d'outils qui existent. Bon, je vous ai mis les liens. Hein. Magpie, c'est celui dont on entend parler le plus souvent. C'est une organisation américaine qui dépend du WGBA, qui s'appelle NCAM, National Center for Accessible Media. Qui a fait cet outil de sous-titrage, bon, qui a le mérite d'exister, dont l'installation est un petit peu lourdingue, quand il marche. Mais il y en a d'autres. Hein. Subtitle Workshop est pas mal. Et en plus, il est, toi je me rappelle, il est gratuit. Il y a des produits comme EGISUB, qui est un projet collaboratif qui marche pas mal. Lemony est payant, Time Adjuster du gratuit, Visual Sub 5, je ne sais plus. Et puis moi j'ai envie de vous parler d'un outil qui s'appelle ProTitle, qui a été développé par une société française qui s'appelle Linsight. Et cette société est venue nous voir. Cette société travaille dans le monde du sous-titrage télé. Et ils avaient une problématique qui était celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est comment produire efficacement, rapidement, économiquement et avec les bons formats. Et surtout, c'est surtout la vitesse et la pertinence qui étaient dans leurs premiers objectifs. Et avant, comment ça se passe, sous-titrage à télé, comme souvent, c'est des gens qui font du télétype hein, derrière et qui reproduisent ce que dit la personne en l'interprétant, le raccourcissant, etc. Et un jour, ils sont venus nous voir en nous demandant est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen, avec de la reconnaissance vocale, d'améliorer la vitesse à laquelle on le fait, que ça nous coûte moins cher, que ce soit plus efficace, bref, qu'on y gagne un petit peu plus en rapidité et aussi en pépette. Donc en fait, on a fait travailler des gens du laboratoire, des gens qui avaient travaillé anciennement sur Via Voice, un outil de reconnaissance. On a d'abord commencé par un produit dont vous avez peut-être entendu parler, s'appelle Via Scribe, qui est développé par un laboratoire aux États-Unis. Et puis on a trouvé que le moteur ne correspondait pas tout à fait à ce qu'attendait Linsight. Donc on a fait travailler dessus une équipe française qui a développé un moteur de reconnaissance spécifique pour la télé. Et donc, quand vous avez appris en début d'année que ça y est, TF1... enfin sous-titrer son journal pour les malentendants. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il y a Linsight et derrière, il y a IBM. Sachant que les sous-traitants qui travaillent pour Antenne 2, M6 et Canal travaillent la plupart du temps par des sous-traitants qui ont à la fois un système mixte, à la fois Vélotypie et reconnaissance vocale et qui essaient de faire migrer les gens d'un mode vers l'autre. Alors, attention, schéma. En gros, voilà comment ça se passe. Je vais essayer de le décrire le plus complètement possible et comment on s'en est servi. En fait, il y a deux étapes. L'étape télé classique, en fait, ce qui se passe, c'est soit on est capable d'avoir un interlocuteur qui a déjà fait son modèle de voix et choses comme ça. Donc, dans ces cas-là, on passe juste par une étape de validation et le sous-titre est envoyé en live. Hein. Soit on a besoin d'interpréter ce texte, voire de le traduire. Et dans ces cas-là, on va passer par ce qu'on appelle des perroquets, qui, eux, vont entendre d'une oreille et traduire ou répéter dans un autre. Et derrière, on a une étape de validation ou de correction. En fait, c'est un jeu multi-rôle. Il y en a un qui écoute et qui transcrit. Derrière, il y en a un autre qui corrige. Et enfin, il y en a un qui valide avant d'envoyer, le tout avec un décalage d'à peu près 6 secondes par rapport... c'est le standard aujourd'hui. Alors on s'est dit comment est-ce qu'on peut se servir de cet outil pour améliorer l'accessibilité des vidéos sur le web. En fait, en sortie de ProTitle, on va avoir un fichier XML qui va être un fichier de sous-titres dont tous les mots vont être codés avec un tag de début de prononciation et un tag de fin de prononciation du mot. Tous les mots sont tagués avec un time code. Donc derrière, quand on va avoir besoin de synchroniser, le plus simple, c'est que je vous montre, parce que c'est comme ça que c'est le plus parlant. Alors derrière, une fois qu'on a récupéré ce fichier XML, bien sûr, on est capable d'en faire pas mal de choses. Par exemple, on peut faire un fichier texte, mais ça, c'est ce qu'il y a de très très facile. Bien sûr, on peut, avec des outils style FOP ou comme ça, on pondre un XML de préférence accessible. Et puis, on s'est dit, mais en fait, on a besoin aussi de produire des pages web accessibles. Donc, est-ce qu'on ne partirait pas d'un template, d'un modèle HTML et via une feuille XSL, en fait, intégrer tout ça et produire en fait les vidéos avec les players qui vont bien, c'est-à-dire QuickTime, Real, Windows Media Player et Flash. Et derrière, c'est effectivement se dire aussi ce fichier XML, on peut le stocker en mémoire ou dans une database, et puis derrière, faire de la recherche dessus, de l'indexation, etc. Bon, alors là, je vais m'asseoir parce que là, c'est de la démo live. Arrêtez, mais bon. Surtout que je n'ai pas le retour sur mon écran. Ça va être assez sportif. Donc, en fait, l'écran se présente de cette façon. Là, je vais l'expliciter. En fait, j'ai trois fenêtres qui, normalement, peuvent se trouver sur trois ordinateurs différents réseaux. Ici, j'ai ma fenêtre de vidéo. Ici, j'ai une fenêtre où ce qui va être ma fenêtre de reconnaissance. Et ici, on ne va pas s'en servir, c'est la fenêtre où je vais m'occuper en fait, de toute la partie correction et validation avant l'envoi. Mais comme là, on est en post-production, on ne va pas s'en servir. Si tu... Ah non, mais je suis encore sur le PowerPoint. Ça risque pas de marcher. C'est cool. Donc, je vais le lancer. Des fois ça marche, des fois il reconnaît le dongle. Yes! Voilà, donc en fait on va se positionner là. Et donc on a nos deux fenêtres qui sont prêtes. On va essayer qu'elles soient bien visibles sur l'écran. Donc là je vais ouvrir une vidéo. Bon, c'est une vidéo, je pensais qu'il y avait des gens du gouvernement dans la salle, donc j'ai pris quelque chose de relativement soft. Voilà, Alain Lambert au Parlement, ou au Sénat, je ne sais plus, qui parle au micro. Et donc là, je vais lancer ma reconnaissance. Donc j'ai chargé effectivement le langage français, la reconnaissance en langue française. Et là, je vais démarrer ma vidéo. Et on va voir ce qui se passe. Et là, je croise les doigts.
Tout au long de la discussion budgétaire, nous avons constaté les difficultés que nous commencions à rencontrer s'agissant de la taxe professionnelle et notamment de la taxe professionnelle relative aux biens mis à disposition des sous-traitants. Souvenez-vous, j'avais d'ailleurs demandé à de nombreux députés de bien vouloir retirer...
Bon, c'est assez indigeste, hein, mais bon, l'idée c'est que vous puissiez... Moi, il faut être un spécialiste. Hein. L'idée c'est quand même de vous montrer qu'en termes de... En termes de reconnaissance, on atteint des niveaux qui ne sont quand même pas trop, trop mauvais. Et que... Alors, je vais vous montrer ce qui se passe, pour montrer ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, j'ai un bout de test qui a été produit. Je vais me positionner sur un mot. Et en fait, la vidéo vient de se repositionner exactement à l'endroit du mot. Je vous le refais. Voilà, je me mets ici. Voilà. Donc, en fait... Le sous-titre est complètement synchronisé, déjà, rien qu'à la reconnaissance, avec le média. Donc, effectivement, ce fichier-là, bien sûr, je peux le sauver, je peux le sauver en XML. Je peux, derrière, le transformer dans des formats de sous-titres un peu plus standards, style SSA, SRT... etc. QuickTime Text, Real Text, j'en passe à des meilleurs. Alors, si vous voulez regarder à quoi ça ressemble. Donc ça, c'était, je vous montrerai le fichier XML tel qu'il a tout à l'heure, pour ceux que ça intéresse. Il fait un peu chaud. Alors ça, c'était la première façon de travailler. La deuxième façon, c'est en fait d'avoir un média pour lequel on a déjà une transcription. Et dans ces cas-là, partir d'un fichier... Alors, c'est dur à distance comme ça. Voilà, donc je pars du fichier texte, qui est un fichier texte pas formaté, mais simplement ce qu'on a fait par rapport au fichier qu'on a commencé à travailler tout à l'heure, à créer tout à l'heure. On a simplement mis des majuscules en début de page, ajouter la ponctuation, corriger les noms propres, enfin des choses qui sont relativement anodines et qui ne prennent pas autant de temps que j'écoute ma vidéo, je transcris, je fais pause, je refais restart, etc. Donc là, normalement, ce que je fais, j'applique par exemple un nombre de caractères par seconde, je peux me baser également sur la durée du film. Bon, je ne sais pas, on peut faire... Non, mais là, j'y vois pas assez pour le faire, donc... On va faire comme ça. Et donc, je dis, intègre-moi ce fichier. Et là, on va déjà le jouer. Juste pour voir comme ça, ce que ça donne, rien qu'en repartant de mon fichier de base.
Tout au long de la discussion budgétaire, nous avons constaté les difficultés que nous commencions à rencontrer s'agissant de la taxe professionnelle et notamment de la taxe professionnelle relative aux biens mis à disposition des sous-traitants. Souvenez-vous, j'avais d'ailleurs demandé à de nombreux députés de pouvoir retirer mon engagement de venir à un groupe de travail dès le début de la présente année. C'est pourquoi le président de la République a voulu donner une impulsion à ce sujet afin que nous puissions en effet trouver une solution. Et je voudrais vous dire que l'objectif qui est partagé et de remplacer la taxe professionnelle par un dispositif qui soit plus efficace économiquement. Vous avez souhaité, monsieur le député, connaître la méthode choisie. La méthode, c'est en effet de réunir tous ceux qui peuvent apporter une contribution utile à la réflexion pour que la meilleure décision possible soit prise. Un groupe de réflexion sera installé par le Premier ministre lui-même dès jeudi prochain. Il sera placé, présidé par un magistrat, monsieur Olivier Jouquet. Et les conclusions devraient être rendues à l'été. Nous voudrions, pour la fin de l'année, être en mesure de pouvoir traduire...
Le fameux effet des mots encore fait de l'effet. On va revenir à la présentation. Donc vous avez vu, hein, la peine de recommencer. Donc en gros, ce que j'ai essayé de montrer, sauf là où ça a bugué, effectivement, c'est soit je parle d'un fichier vidéo brut et je suis capable d'extraire relativement facilement des voix et des voix multiples. Et chose importante, on est sur un moteur de reconnaissance qui est multilocuteur, c'est-à-dire que si dans ma vidéo j'ai plusieurs locuteurs, je vais être capable de reconnaître plusieurs voix. Éventuellement d'y ajouter dans mon fichier XML l'identification d'un que c'est a priori un interlocuteur différent. Donc ça c'est important. On est capable aussi donc à partir d'une transcription qui est soit fidèle, soit déjà un petit peu travaillée par un service com, que sais-je, d'être capable de resynchroniser en fait un fichier texte avec un élément vidéo. Et je crois que quand on travaille à faire de la production vidéo, le fait de pouvoir se reposer sur un outil comme celui-là permet effectivement de doper un petit peu la production. Voilà, ça c'était ça. Alors après, on peut se poser la question, quel lecteur multimédia pour accueillir donc, dans mes pages web mes fameuses vidéos. Bah, QuickTime, c'était le précurseur, toujours pas mauvais. Real est venu derrière, et je crois que s'il avait eu un URL un peu plus facile à trouver et des spamming un peu moins importants, je pense qu'il aurait pu faire quelque chose de pas mal. Windows Media Player, on le mentionnera. Et puis... Je crois qu'il y a des gens qui ont des Macs dans la salle, je ne voudrais fâcher personne, on va l'évoquer, mais on ne va pas aller plus loin. D'autant plus qu'en général, quand on va vouloir intégrer un lecteur multimédia dans une page, un des premiers points que j'avais évoqué dans mes premières diapos, c'était l'accessibilité du lecteur. Or, à ma connaissance, et d'après les tests que j'ai pu effectuer, avoir un lecteur embarqué en tant qu'objet dans la page, essayer de le manipuler avec des touches de fonction sans passer par la souris, j'ai pas réussi. Hein. Je dois être une grosse buse, mais j'ai pas réussi. Donc en termes d'accessibilité, quand on va parler de lecteur intégré dans les pages, ça va être avec un certain nombre de limites, notamment celle-là, c'est qu'en termes de contrôle, je vais avoir quasiment rien. Si j'ai par exemple un fichier sur lequel j'ai plusieurs langages et que je ne sois pas capable, plusieurs on va dire, sous-titres dans différents langages, et que je ne sois pas capable d'y accéder au travers de mon interface web, ce n'est pas très idéal. On verra que Flash se débrouille pas mal. Je sais que Flash et l'accessibilité, il y a des gens qui disent que Flash est pas accessible. Il peut. Et ça s'améliore. Je crois qu'on l'a diabolisé pendant pas mal de temps. Je pense que ça venait surtout d'une méconnaissance. Et puis, peut-être le fait, c'est quand même un format propriétaire. Quand même. On va voir qu'il est capable de faire des choses aussi assez intéressantes. Alors, on va s'amuser avec, par exemple, là, on a inséré une opérette bien connue de la Grande Duchesse de Gerolstein, que vous devez tous connaître, hein, c'est un tube dans le monde de l'opérette. Donc ça, j'y reviens pas, parce qu'on a pu regarder si c'était recommandé, tout comme ça, mais on va pas se fâcher. Même squelette HTML et une feuille XSL différente par lecteur pour pouvoir intégrer le média comme on voulait. Et en plus, on a effectivement. Donc là, pour le.
Alors vous l'avez écrit, mais pour ceux qui ne peuvent pas lire, je vais le relire. Donc on a généré un fichier XML de sous-titres par langue et une vidéo au format MOVE, hein, même si beaucoup de termes acceptent d'autres formats. Derrière, on a écrit un fichier SMILE donc qui pointe et sur le fichier vidéo et sur le fichier de sous-titres. Et en fait, à l'affichage, on mixe les deux. Il y a des façons, on va dire, moins standards de le faire. C'est-à-dire qu'avec QuickTime, on peut rajouter une piste de sous-titres en tant que test et la synchroniser et d'en faire un objet unique. Mais disons que ça, c'est la méthode la plus... Qu'est-ce que tu regardes, Daniel? Le petit? Lequel? Ça? Je ne sais plus, je ne vois plus. Tiens, ça doit être... Ça m'a reprendre. Donc voilà. On peut aussi, et ça serait une recommandation que je ferais, c'est plutôt... alors, je sais, on sort de l'interface du site. C'est une rupture, quelquefois, par rapport à rester dans un site. Alors, en termes d'ergonomie... et de d'utilisabilité ou de facilité d'utilisation, ça peut être discutable, mais en termes d'accessibilité, c'est vrai que l'ouvrir dans le lecteur externe, si la personne l'a, c'est quand même quelque chose où là, avec des outils tels que JAWS dont on parlait, on va pouvoir avoir un meilleur contrôle sur toutes les fonctions et les boutons du lecteur. Donc, on peut effectivement le lancer. Oui, je n'arrive même pas à lire ce qui est marqué. On va dire oui. Bon, d'accord. Oui, on a soupé des grandes nouvelles. Donc, QuickTime, on l'a vu. Real Player, c'est aussi possible de faire quelque chose d'assez intéressant. Alors, où est-ce qu'il va être là? Des fois, il démarre aussi. Bon, là, ce qu'on a fait par rapport à tout à l'heure, on a poussé un petit peu plus loin le fichier SMILE, c'est-à-dire qu'au lieu simplement de synchroniser une vidéo et puis un ou deux fichiers sous-titres. Là, en fait, on a fait une image de fond qui décrit en fait un PNG, hein, où là, simplement, il y a le projet géographique plus deux petits drapeaux pour indiquer les langues des sous-titres et puis une barre de séparation.
J'aimerais vous parler aujourd'hui du projet géographique. L'innovation pour IBM est une valeur fondamentale.
Voilà. Donc en fait, c'est quand on regarde le fichier SMILE, pour ceux qui ont jamais eu la curiosité d'aller voir, ça paraît comme ça. Ouah, non, pas tellement. C'est assez basique. Hein. En fait, je mets en parallèle un certain nombre d'éléments que je vais jouer ensemble, et puis ça se passe tout seul. Je définis les zones pour mettre ces... de toute façon, le fichier sera avec le PowerPoint pour ceux qui s'amusent. De toute façon, il y a aussi, dans l'atelier du GTA, il y avait aussi des exemples qu'on peut aussi reprendre. Hein, j'ai pas... Donc c'est relativement basique. Windows Media Player, bon, on a vu que c'était possible. La chose simplement, c'est que quand on intègre dans une page pour définir les sous-titres, en fait, on est obligé de définir une div, une zone dans laquelle on va placer les sous-titres. Bon, c'est simplement au lieu d'un fichier SMILE, c'est un fichier SAMI, donc le format propriétaire Microsoft. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est on essaye plutôt de le... Pareil, encore une fois, en plus je trouve que l'habillage de Windows Media Player, ça ne va pas avec tous les sites, quoi. Donc, Je ne sais pas, c'est une question de goût personnel, mais personnellement, ça ne m'excite pas plus que ça. Et par contre, effectivement, quand on le lance dans le lecteur externe, effectivement, quand il y a des sous-titres, on est capable, avec Samy, on est capable aussi d'aller voir, effectivement, de se passer les sous-titres. Là, ici, il y a des sous-titres dans trois langues, qui étaient français, italien, anglais, et on est capable de les afficher dans le player. Juste parce que je l'ai là, on va le montrer. Mais, si vous voulez bien.
Scoprirete, navigando nel web, e in queste...
C'est pour ceux qui ne parlent pas italien, je trouve que le sous-titre apprend toute sa valeur. Donc effectivement, dans la lecture, je suis capable de dire, mais là j'ai du problème, voilà. Effectivement, là je l'ai mis les sous-titres en français, mais je peux tout à fait remettre les sous-titres en italien, ou les sous-titres en anglais. Bon, il y a un petit
débat. Pagine, un'Italia bellissima. Eppure, è una parte minima della bellezza infinita del nostro paese. Story.
Bon, pour ceux qui n'aiment pas les polices, c'était le Tourcarrière. Donc, c'est le ministre, pour ceux qui ont la curiosité, c'est le ministre du tourisme italien qui vantait les mérites de l'Italie sur son site. Et alors, Flash. C'est marrant, mais j'ai l'impression que les quelques-uns. Là, bon, je ne m'attendais pas à ce que. Pas du tout. Non. Alors, déjà, oui, c'est pas standard, c'est propriétaire, machin chouette, tout touche, enfin, j'en entends. En plus, il faut se former et tout, alors que, bon, HTML, on est avec, on est d'accord. Bon, quand même, quel lecteur utilise l'internaute? Je crois que là, il suffit de regarder un petit peu le marché, on s'aperçoit quand même qu'il y a une... Bon, c'est les chiffres d'Adobe, hein, donc bon. Non, je vous invite à aller voir la méthodologie des calculs sur leur site. Je n'ai pas dit que ce n'était pas vrai. Mais bon, on s'aperçoit quand même que, bon, si... ouais. Bon, Réal, par exemple, c'est dommage, mais bon, c'est pas le top, hein. Au niveau présence sur les machines des internautes, c'est pas... Quelle version? Bah, on s'aperçoit qu'ils ont bien joué. Je pense que... bon, il n'y a pas que le fait que ça soit sur toutes les machines. Bon, ça ne serait pas sur toutes les machines si ce n'était pas un petit peu bon, quoi. Je crois que ce qui a fait leur succès, c'est... le fait qu'on puisse adapter le look and feel, hein, l'apparence du lecteur. Il y a des codecs qui sont très très bons, avec en streaming, ça a des performances qui sont énormes, avec des tailles de fichiers qui ne sont pas gigantesques. Je crois qu'aujourd'hui, il faut regarder un petit peu, même si c'est, on peut se faire plaisir en faisant des choses comme ça. Et si on veut regarder l'audience qu'il y a, je pense que Flash, ça devient quand même assez incontournable. Enfin, pour l'instant. Mais dès qu'on aura le tag vidéo HTML5, alors, on n'aura plus besoin de tout ça. Hein? Oui, on a déjà. Même sur Opera, il marche très bien. N'est-ce pas, Charles? Je ne vais pas dire le contraire. Bon, sinon, il y a des très bons bouquins. Hein. Chez Erol, par exemple, hein, qui est le sponsor aussi de la manif. Pardon? Qu'ils nous ont offert à chacun. À ceux qui posent des bonnes questions. Hein. Un beau livre. Bon, au niveau de l'encodage, parce qu'il faut bien parler aussi de... Pour avoir cette performance aussi, à part le sous-titre et le player, il y a quand même l'encodage, il fait pour beaucoup. Je vous ai mis des sites. Hein. Je crois que, de base, effectivement, l'encodeur de Flash CS3 n'est pas mauvais. Suite Sorenson, pour moi, sur l'ancien codec, qui était le codec Sorenson, ils étaient assez bons. Par contre, maintenant, sur le dernier, je pense que On2, comme c'est aussi leur codec, je crois qu'en termes de performance et de compacité du fichier, on a vraiment des choses assez intéressantes. Pour intégrer parce que je n'ai pas parlé d'encodage avec Object, Embed, des choses comme ça pour tous les autres, mais bon, je suppose que c'est du connu. Si on veut conserver du Flash XHTML valide et intégrer du Flash, il y a une bonne solution qui fait un petit peu de DOM scripting. bon, c'est très à la mode, mais en fait ça marche. Et tous les grands sites de partage de vidéos en fait ont adopté soit cette solution, soit une autre qui s'appelle UFO. Enfin bon, en gros c'est ma page valide et derrière en fait j'appelle mon objet. Mais au moins j'ai la satisfaction d'avoir une page valide et je sais qu'il y a des maniaques, mais on sait pourquoi. Donc il est facile à mettre en œuvre au niveau du code, c'est-à-dire je me fais une div, j'écris d'abord ce que je veux qu'il se passe, enfin j'écris d'abord mon objet flash, et ensuite, juste avant, je mets un petit script, et en cas où je n'ai pas le script, il y a tout ce qui est au-dessus dans la div qui s'affiche. Donc ça a aussi des avantages non négligeables, je vous montrerai en réel tout à l'heure. Il y a un autre avantage, c'est qu'il détecte bien le plugin Flash et les niveaux du plugin. Digress gracefully, mais ça c'est une formule consacrée que seuls les initiés W3C apprécieront. Et il accepte en plus le passage de variables des Flash Var, mais ça c'est les aficionados de Windows Flash qui ont bien sûr compris. Désolé pour les autres, mais il faudrait le logbook. Alors, on peut embarquer des sous-titres dans un fichier FLV. Hein. FLV, c'est Flash Vidéo, pour ceux qui ne sauraient pas. Il y a, je ne suis pas très, très partisan de cette solution, mais pourquoi pas. De la même façon que vous pouvez embarquer des sous-titres dans un fichier QuickTime tout à l'heure, là, on est capable en fait, d'insérer une sorte de metadata dans le fichier Flash. Et en fait, les appeler via un composant Flash qui est capable de les synchroniser avec la vidéo. À tes souhaits. Bon, ça, c'est pareil, il y a des liens, il y a des choses comme ça, vous aurez des vidéos. Si jamais vous utilisez les nouveaux composants FLBack Captioning, FLV Playback Captioning de CSS3, la dernière fois que j'ai regardé, les lecteurs qui généraient n'étaient pas accessibles. Mais bon, apparemment, de côté de chez Andrew Kirkpatrick, on se remue pour que ça. Bon, là, on a par exemple un skin qui a été. Une peau. Adobe sur un lecteur Adobe qui a été modifié parce que les couleurs étaient celles qu'on voulait. Et qui propose un bouton avec des sous-titres. Alors, donc, ce que ça donne en général, si j'arrive à le retrouver, c'est celui-là.
Scoprirete, navigando nel web et in queste pagine.
C'est toujours le ministère. L'avantage, c'est que si je m'aperçois que je veux naviguer ici, simplement avec ma touche de tabulation, je suis capable de naviguer dedans. Et ça, c'est un. Bon, si je veux enlever les sous-titres, par exemple, je suis capable d'activer un certain nombre de choses.
Elle est bellissima. Eppure, è una parte minima della bellezza infinita.
Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris une bombe ou un composant Flash. On a écrit en AS3, ActionScript 3, un programme qui va en fait faire. Le parsing, enfin, qui va analyser le fichier HTML qui sort de Protitle, et en fait, on arrive à sortir les sous-titres. Mais on va voir qu'il y a des choses plus intéressantes, et on n'est pas forcé de connaître Flash pour y arriver. Voilà, si je ne veux pas prendre Flash et AS3, il y a un objet que je trouve assez remarquable, et qu'on commence à trouver sur pas mal de sites, qui est quelqu'un qui a travaillé pas mal sur l'accessibilité, qui, d'après son nom, est un espagnol, mais du Nord. Donc il y a un lecteur accessible qui supporte les fonctionnalités de plein écran de Flash 9, qui accepte effectivement description audio et sous-titres avec des formats SRT, mais un peu plus standard aussi, style DFXP ou TTRF de W3C. On peut lui changer son apparence, sa couleur, ces choses comme ça, sans connaître rien à Flash. Il a des plugins, et on en parlait déjà tout à l'heure, pour de nombreux CMS, dont certains qui seraient plutôt accessibles, style Joomla ou autre. Il est sous licence Creative Commons. Pour un usage individuel, il est gratuit. Et en usage limité, ça va être quelque chose comme 100€. C'est assez supportable.
là, la tête qu'il a, on va essayer de le voir ce qu'il donne. Voilà, donc là, on va essayer de le jouer.
Scoprirete navigando nel web e in queste pagine un'Italia bellissima, eppure è una parte minima della bellezza infinita.
Dans les composants flash aujourd'hui, quand on cherche à avoir à la fois sous-titres et plein écran, bonne journée.
Donc là, je le trouve assez remarquable pour un composant qui est relativement discret. Effectivement, on peut changer les couleurs des menus. Ici, si jamais on a prévu, on peut avoir un petit picto qui, sur la barre d'outils qui permet d'avoir de l'audio description. Donc je trouve assez remarquable et assez bien fait. En plus, il évolue périodiquement avec de nouvelles fonctionnalités. On peut le piloter, le traquer par JavaScript. Il y a une richesse fonctionnelle qui est assez énorme. Il y en a un que j'aime bien aussi, c'est quelque chose qui a été fait par le créateur de Magpie, mais qui se trouve aussi dans le groupe de travail du B3C sur TTF, donc bon, une certaine collusion. Donc c'est pareil, l'objet flash, bon, qui est multilingue, il est assez amusant à voir. Enfin, c'est amusant. Ça doit être celui-là.
Scoprirete, navigando nel web et in queste pagine.
Il y a plusieurs choses intéressantes. C'est ici, je peux changer, toujours en flash, je peux le faire, hein, je peux le faire comme ça, mais j'y vois rien sur l'écran, désolé. Donc les langages, effectivement, je peux changer la langue de mes sous-titres. Je peux aussi faire de la recherche sur un mot, et à ce moment-là, effectivement, la vidéo vient se positionner sur le mot. Donc ça, j'estime que c'est quand même pas trop mal. Effectivement, les contrôles sont aussi accessibles. Donc celui-là, il est. Enfin, je vous invite à aller le regarder sur la page précédente. Les slides quand vous les aurez. Bon, c'est pareil. On peut le. Enfin, les sources sont pas données, alors que pour le précédent, on peut aller vraiment customiser et. Ceux qui maîtrisent AS3 peuvent vraiment s'amuser. Il y a les schémas de fonctionnement, il y a les arborescences, les branchements et tout. C'est super bien fait. Et c'est pas un copain. Et on en revient. Tout à l'heure, on parlait effectivement du sous-titrage et de l'interprétation avec la langue des signes française pour chez nous. Je termine. Il y en a un qui est absolument fabuleux et qui est du flash. Mais qui supporte un tas de choses standards et moins standards, du Smile, du DFXP, plus d'autres choses. Et en gros, voilà comment ça se présente. Je ne sais pas si je vais pouvoir... En gros, ce qu'on a, c'est on a une fenêtre, effectivement, on a notre vidéo avec ses boutons de contrôle. On peut faire apparaître, effectivement, le sous-titrage, la description audio, et également dans une fenêtre qui fait partie de l'objet flash, qu'on peut retailler l'interprétation en langue des signes. Donc ça, je trouve ça assez extraordinaire. Donc je vais essayer d'y accéder pour vous montrer ce que ça va donner. Sinon, alors j'ai quelqu'un qui fait partie d'une institution qui n'est pas trop mauvaise, qui est l'International Webmaster Association. Donc je crois qu'on peut arriver à le voir ici. Voilà, donc j'ai cette fenêtre que je peux draguer.
Sign language is important because a high number of deaf people marks to communicate, and thanks to the sign language it is possible to transmit any type of message, giving so the possibility to the deaf person to understand the meaning and to be able.
Voilà. Je crois qu'il, enfin, c'est jusqu'à maintenant, je crois qu'il a été fait en premier trimestre 2007. Il a reçu des applaudissements aussi du W3C.
Et vraiment, enfin, pour montrer qu'avec Flash, il y a matière à avoir de la créativité, mais de la créativité aussi accessible. Et je vous engage à regarder un petit peu les différents exemples que je vous ai donnés, et puis à voir que, bon, si vous n'avez pas ProTitle, les outils aussi que je vous ai donnés, bon, sont, vous allez peut-être moins gagner en temps, mais c'est relativement facile. Je ne suis pas un développeur, je suis plutôt marketing, donc en général, les marketeurs et la technique, ça ne fait pas trop de ménage, donc je suis vraiment très très bon. Je vous ai donné un certain nombre de liens à parcourir. Ça, c'est assez sympa, DotTube. Hein, c'est un site, pareil, collaboratif, quoique, qui permet, en fait, par rapport à une vidéo que quelqu'un télécharge, de télécharger et d'écrire le sous-titre qui va bien dans sa propre langue et de le mettre à disposition de tous les autres. C'est plutôt sympa. Un projet aussi, Vidéo Maru, pour un autre projet collaboratif assez sympa sur Flash. Bon, je pourrais tenir encore un moment, mais on va passer aux questions.
Merci. Alors, juste avant, je vais essayer de ne pas limiter le nombre de questions, mais du coup, il faut tenter de faire vite, si possible, pour s'expliquer.
Donc, deux choses. Première, vous savez, les spécifications HTML dit HTML documents doivent être valides après le changement effectué par un script. Donc, c'est une erreur de validateur.
Si on regarde le code qui a été produit, ouais. Effectivement, le code généré, effectivement, il est aussi pourri que ce qui était avant.
Ouais.
Mais bon, c'est pour ceux qui ont besoin de dire je produis des pages valides, on va dire c'est un artifice. C'est pas,
on va jouer avec le validateur.
Voilà.
La question c'est, en fait, on pourrait faire avec SVG.
SVG, bien sûr.
Tous les trucs, l'accessibilité, tout machin. Vous n'avez pas fait parce que c'est...
Parce que je ne suis pas quelqu'un de technique et puis que je m'intéresse. Aujourd'hui, il n'y en a pas sur le web. Enfin, moi, je n'en connais pas. Je pense que ce qui manque, c'est les outils. Outils. On a parlé d'Authoring Tool. Ça marche parce qu'il y a un Authoring Tool. Hein. Ou ça marche parce qu'il y a des modules qui sont faciles à utiliser. Aujourd'hui, je crois que c'est ce qui manque pour exploiter SVG. Mais dans l'idéal, effectivement, on peut être que d'accord.
Dominique Azal-Massieu, W3C. Ce n'est pas une question, c'est juste un petit commentaire. Le W3C organise un atelier sur la vidéo sur le web, donc exactement sur ce sujet-là, mi-décembre. Ceux qui sont intéressés par y participer, donc il va se passer à la fois en Californie et à Bruxelles par liaison vidéo, donc c'est aussi une première pour un atelier de W3C. Ceux qui sont intéressés, il faut soumettre ce qu'on appelle un submission paper, je ne sais pas comment le traduire en français. En gros, quelques lignes où vous expliquez pourquoi cet atelier vous intéresse, mais la seule petite limite, c'est qu'il faut le faire avant lundi. Donc si vous êtes intéressé, les informations sont sur le site du W3C. À qui l'envoyer, etc. Vous pouvez aussi venir me voir à une pause pour que je vous donne plus
d'informations. Sur la homepage, vous pouvez passer ?
Je pense. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que ça doit être accessible depuis la homepage.
Okay. Et je vous engage, effectivement.
Oui, bonjour.
C'est vous ?
Là, ici. Julien Balis, j'ai une petite question par rapport au dernier player.
Ouais.
Est-ce que c'est possible de faire une synchro entre les différentes langues des signes ? Parce qu'il n'y en a pas qu'une.
A priori, si on est capable de le faire dans une, comme on a un petit onglet qui fait effectivement, je sais bien qu'il n'y en a pas qu'une, c'est pour ça que je dis langue des signes, j'ai mis LSF parce qu'on est en France, mais bon, effectivement, la langue des signes britannique n'est pas la même, l'allemande non plus, donc a priori, comme on change la langue des sous-titres, rien n'empêche dans la fenêtre où il y avait le composant, enfin, la partie vidéo qui était langue des signes, de mettre effectivement aussi, ou alors dans la fenêtre principale, de demander « je veux la langue des signes dans telle ou telle langue ». Après, c'est plus une question de créativité, et puis effectivement de technique de programmation, qu'une véritable impossibilité technique. Je dirais, la créativité dans le domaine de l'accessibilité, c'est très très ouvert. Hein. C'est un domaine où on doit pouvoir exercer toute sa créativité.
Bonjour. Aurélien Lévy. Donc juste des petites remarques et une petite question. Au niveau des remarques, donc le player que vous avez montré là, je ferai également le dernier, Flash, j'en ferai une démo technique samedi, et il sera normalement sorti de façon officielle, parce que pour l'instant il n'est pas téléchargeable, il devrait être téléchargeable à partir de samedi également. Ça c'est une première chose. Sur les autres players, le CC Player est très bien effectivement, mais il a un défaut à l'heure actuelle, c'est qu'il ne supporte pas l'audio de description. Et les autres, quand on passe par du Reel, etc., il faut savoir qu'effectivement c'est très peu accessible au clavier quand ils sont intégrés dans les pages. Le seul qui est à peu près accessible, c'est Reel Player, mais qui effectivement a l'inconvénient d'être assez peu répandu. Au niveau de la question, c'était par rapport au logiciel que vous avez montré au tout début. Ça, c'est un logiciel, je pense, qui est payant. Est-ce que vous avez une idée de l'ordre de
tarifs ? Je n'ai pas les ordres de prix. Je pense qu'il y a... vous allez sur le site, ou dans les plaquettes, il y a une petite plaquette où il y a le nom de la commerciale de l'entité.
Ok.
Vous voyez ça avec.
Bonjour, Patricia Gallo-Lavallée d'Internet, donne-moi ce que je veux. Je cherche le client-centric mixte pour votre human-centric approach. je cherche, c'est super, vraiment, j'ai appris plein de choses, j'adore. Mais moi, j'ai des clients qui ont des budgets et surtout, on a du temps. Et la vidéo, c'est aussi quelque chose de très accessible parce que beaucoup de gens apprennent beaucoup plus comme ça qu'en lisant. Donc maintenant, je cherche vraiment à être efficace et à trouver le mix qui nous permet d'avancer. Et je voulais savoir si vous en aviez vu, si vous en voyez.
Si j'en ai vu des...
Par exemple, d'un point de vue marketing, c'est vraiment intéressant de publier les vidéos sur des plateformes de type YouTube, etc. Machin. Donc en même temps, j'en profitais pour le mettre sur mon site web, parce que ça va donner de la visibilité, ça va pousser ma vidéo de partout. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets une alternative avec des sous-titres avec un petit lien en dessous, je mets un transcript en pleine page, dans la page. Mon ergonomie, comment est-ce qu'elle est affectée par ce genre de choses? Enfin, tout ça, quoi. Du concret. Pour un client.
Du concret pour un client, c'est lui faire ressortir effectivement tous les avantages de lui faire apparaître le contenu de la vidéo. C'est surtout un contenu comme un autre, mais sous différentes formes.
Oui, non, mais je voulais juste savoir si vous aviez vu un mixte complet de toutes les bonnes pratiques dans une même page.
Toutes les bonnes pratiques dans une même page, si ça existait, ou c'est vraiment des cas d'école. On peut s'amuser à toutes les faire. Après, c'est... Rien n'empêche de tout mettre. Après, est-ce que c'est acceptable par un client? Le fait de mettre une transcription de texte sous forme de texte HTML, ça permettra quand même au moteur d'indexer le contenu.
Ah ouais, mais moi, je suis super pour, puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à des YouTube, etc., du bureau, donc c'est super.
Voilà, le fait de pouvoir le descendre en MP3, par exemple, c'est pas stupide non plus.
Non, mais je vais juste avoir une page entière avec tout, quoi. Voilà. Si quelqu'un en a une, ça m'intéresse.
Je veux dire que la page idéale, elle reste à inventer, parce qu'elle est fonction d'un client, elle est fonction d'une cible, elle est fonction de... Bon, je ne vais pas vous faire le sketch, je n'ai pas la bonne réponse.
Juste avant de passer, j'interviens juste un petit peu. L'accessibilité, c'est en général plus un objectif qu'une tâche à remplir. Et du coup, la page idéale n'est souvent pas là et n'existe pas. J'ai trois questions encore. Essayez de faire rapidement ou éventuellement, si c'est de longues questions, on passera sur la table ronde demain. Voilà. Stéphane.
Bonjour, Thibault Leporé. Donc en fait, j'ai une question, c'est par rapport... donc là, on a vu des solutions qui sont en flash 8, voire flash 9 au niveau des players. Et qu'est-ce qu'il en est, par exemple, pour le web mobile, où c'est vrai que les players flash sont peu intégrés aux appareils mobiles, où on a plutôt des players flash light ou des média player, disons, restreint. Est-ce qu'il y a des solutions pour ce genre d'appareil?
Aujourd'hui, il y a du Real Player, il y a du Flashlight, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, des standards, mais je pense qu'il y en a un qui est très très bien placé pour parler du web mobile, et il est là. Donc, je sais qu'il y a des initiatives, il y a des groupes de travail sur le sujet. Aujourd'hui, ça m'aurait plu de vous montrer effectivement... Une vidéo sous-titrée qui ne soit pas une vidéo sur laquelle j'ai gravé les sous-titres en même temps que ma vidéo pour du mobile. Ça m'aurait plu. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé la solution. J'ai cherché, effectivement, le contenu mobile vidéo, ça explose quand il n'est pas télé sur mobile. Effectivement, aujourd'hui, je ne sais pas faire. Peut-être que Dominique a des réponses sur le sujet.
Moi, j'ai une toute petite réponse assez rapide. J'ai vu des gens d'Adobe, il n'y a pas longtemps, qui promettent un Flash Player sur mobile qui serait monté directement à peu près à la version 9 ou 10. On ne sait pas encore. Parce qu'évidemment, ils se rendent compte qu'il y a deux fois plus de téléphones mobiles que d'ordinateurs dans le monde. Et ils ne sont pas complètement bêtes. Hein.
Excusez-moi. Oui. Vous n'avez pas parlé du lecteur DivX. Je voulais savoir si c'était un choix ou si c'est parce qu'il n'avait aucune possibilité d'être accessible.
DivX, c'est plus un standard de codage que... Enfin, le lecteur DivX, moi, je
le vois. Il y a le lecteur web DivX. On le trouve très souvent maintenant sur les sites de...
j'ai pas étudié le lecteur DivX. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a...
C'est ça le truc d'utiliser SVG, que quand on a un player, on l'utilise que pour le vidéo et tous les contrôles, tous les outils, etc., on met avec les SVG et comme ça, tu as l'accessibilité.
Ouais. Mais j'ai pas, il n'est pas comme répondu dans le panel des lecteurs multimédia qu'on trouve sur le web. Bon, il est moi je l'ai sur la machine, mais bon, je ne le trouve pas sur le web de façon énorme, on va dire. Le format DivX, oui, ça oui. Mais, et faire du sous-titrage de DivX, c'est facile. Hein. Il y a des tas d'outils pour le faire. Hein.
Pour
Docteur DivX ou des choses comme ça le font.
Pour revenir très rapidement sur la question de la vidéo sur les mobiles, l'une des pistes qui est intéressante à suivre, pour le coup, plus sur les mobiles effectivement que sur les ordinateurs de bureau, c'est SVG 1.2 Tiny. Qui est développé spécifiquement pour les appareils mobiles, qui a un support vidéo qui est bien défini, qui permet de faire des interfaces accessibles, etc., et qui a un déploiement sur les téléphones portables qui est nettement plus intéressant que le déploiement de SVG sur les ordinateurs de bureau. Donc c'est aussi une piste à suivre. Je ne peux pas dire que 100% des mobiles le supportent, bien entendu, mais c'est certainement... Enfin, en tout cas, de notre côté, c'est là-dessus qu'on investit beaucoup et on a un assez fort support de la part des différents navigateurs mobiles en la matière.
Just quickly, I hope Stephanie is okay if I ask in English. Is there any plans to do something like that as a server-side control as well? Because most of the video online these days is user-generated and not actually generated by news agents and stuff like that. So if we had a controls, an Apache module or whatever, that actually you could run over uploaded video and even with a day delay or something like that, create captioning, no matter if the quality is like 60%, that would still make a lot in terms of accessibility and also in terms of searchability, because you would find video content without having to actually look at it. Is there anything like that planned for any of the IBM servers, or?
Je vais essayer de. C'est pas très facile à traduire. Si j'ai bien compris ta question, en gros c'est il y a. J'ai du mal. Vas-y.
En gros, la question, si je résume très rapidement, c'est que la plupart des vidéos sur le net sont déposées par les utilisateurs et pas par les éditeurs. Et du coup, les utilisateurs, eux, ne vont pas se taper la traduction, le transcriptage et tout ce qu'il faut. Et est-ce qu'il y a moyen, côté serveur, de faire des choses automatiquement ou en tout cas
bon, ça tombe bien, c'est à peu près ce qu'elle a compris. Donc la réponse, c'est oui, il y a des choses qui se font. Ce type de moteur de reconnaissance dont on a parlé... ils sont utilisés pour chercher du contenu sur le web de façon classique, de façon textuelle, mais aussi de façon, on va dire, vidéo, voire télévisuelle, ne serait-ce que par des gens comme le gouvernement américain, pour savoir ce qui se raconte sur Al-Qaïda ou choses comme ça. Donc indexer du contenu vidéo ou télé, oui, ça se fait, avec des moteurs de reconnaissance et des algorithmes assez poussés. Ça existe. Et je pense qu'il y a une... Je ne me rappelle plus le nom de la société, mais qui utilise un des moteurs d'IBM pour, justement, faire de la recherche sémantique sur le contenu des vidéos. Sans compter, je veux dire, les logiciels qui vont avec, qui sont les logiciels qui analysent le contenu des images.
Donc en croisant les deux capacités, effectivement, on se donne de bons moyens pour indexer de la vidéo sans que l'utilisateur qui l'a créé soit capable de générer des tags, du contenu, etc. Mais on peut en discuter offline.
Ok, merci. Alors on est un petit peu en retard. On va passer à Daniel Glassman.